arrêtons ce moment autour de ta parole. Seigneur, dirige-nous, édifie-nous, nous par ta parole. Amen. Le confinement dû à la pandémie COVID-19 a mis l'Église à l'épreuve. Elle nous a obligés, en peu de temps, à inventer des nouvelles manières de vivre la communion fraternelle. Je trouve que les diverses églises locales ont fait preuve de beaucoup d'imagination et d'initiatives heureuses. Nous avons testé différentes manières de vivre l'Église et peut-être pris des nouvelles habitudes. Mais le déconfinement est certainement une plus grande épreuve pour l'Église que le confinement. Nous devrons probablement repenser notre manière de vivre l'Église locale et questionner nos anciennes et nos nouvelles habitudes de nous rassembler pour n'exclure personne. Avec notre groupe de maison, nous avons vécu avec joie, comme Willy l'a déjà dit, plusieurs cultes dans notre petit groupe en respectant les consignes fédérales. Il peut être agréable de vivre des cultes avec des prédicateurs hors pair, des louanges qui nous conviennent, tout en étant confortablement installé dans un bon fauteuil, entouré des amis proches, avec en plus un café et peut-être même des croissants. En cellule, nous avons décidé d'animer ce culte autour de la question: en quoi l'Église réunie, l'Église locale, est-elle importante pour moi? Christ a aimé l'Église et moi. En quoi l'Église est-elle précieuse pour moi? Quelques témoignages des membres de la cellule viendront donc enrichir cette réflexion. Je vous lirai pour commencer un texte qui parle de relations conjugales, mais je ne traiterai pas cette question. Je m'arrêterai sur une affirmation qui se trouve dans ce texte et qui nous parle du Christ et de son amour pour l'Église. Pierre-André nous avait proposé pendant cet été, pendant les cultes de cet été, d'éventuellement que les cultes tournent autour de ce thème de l'amour. Eh bien, ici, c'est l'amour du Christ pour son Église. Lisons dans Éphésiens 5, les versets 25b à 27. Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Beaucoup de personnes ont pu être blessées par l'Église. Et je sais de quoi je parle. On peut rêver d'une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Christ a donné sa vie pour que l'Église soit un jour ainsi. Mais le verset 26 précise « afin de la conduire à cette perfection dont il est question dans ce texte. » On peut donc rêver de trouver l'Église sainte et pure, mais on oublie parfois qu'aucune Église n'y est encore parvenue. Le Christ a donné sa vie afin de conduire l'Église à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Ce texte parle de l'Église et non pas des membres qui la constituent. Christ s'est donné pour conduire l'Église à... trois petits points. D'autres textes, comme Jean 3,16, parlent de l'amour de Dieu pour le monde et pour les individus qui habitent dans ce monde. Si Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle, c'est qu'elle a une immense valeur à ses yeux. Elle est précieuse pour lui. Et là, je laisse la parole à Madeleine pour nous partager quelque chose.
L'Église est précieuse pour Dieu. J'en suis convaincue. Je me suis posé la question sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau arriverait-elle? Je pense ici à l'église locale, ici, notre église, celle que je fréquente. Niveau 5, 8, 2. Il y a un homme qui est marchand de belles perles, et voilà qu'il trouve une perle de très grande valeur, la perle. Une perle infiniment précieuse. L'homme se met en route, prend tous ses biens, tout, et le vend pour acheter une perle. Je m'imagine à sa place, tout vendre, ma maison, ma voiture, mes bijoux, mes biens, pour un seul but, posséder une toute petite chose. Cette perle précieuse, pas n'importe quelle perle, c'est vrai, seulement celle-là. C'est une parabole que Jésus a racontée. Il commence par « Le royaume de Dieu est semblable à… » L'Église locale, nous y compris, faisons partie du royaume de Dieu. Et du coup, je me sens tout petit peu concernée. Quelle place a l'Église dans ma vie, dans ma foi? Perle précieuse ou poulet à mes pieds? Pour moi, l'Église est précieuse car c'est là où je peux fortifier ma foi, où je peux goûter à la communion fraternelle ici et partout dans le monde. Ça vous est sûrement arrivé d'aller à un culte ailleurs, dans un autre pays, et d'être accueilli chaleureusement. C'est là où je peux louer Dieu avec d'autres personnes. J'ai essayé de faire une chorale toute seule à la maison. Ça ne va pas très bien. Ici, je chante beaucoup mieux parce que je suis entourée d'autres personnes. Mais c'est surtout là où Dieu donne sa bénédiction.
Merci Madeleine. Si le Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle, comment pouvons-nous donc prendre nos distances par rapport à l'Église locale, qui est certes encore imparfaite, sans faire de la peine au Christ, qui accompagne, qui lave, qui purifie l'Église par l'eau de la parole? Et le Christ a aimé l'Église, non pas parfaite, mais encore imparfaite. Autre réflexion que ce texte m'inspire, se laisser laver par l'eau de la parole n'est pas une action individuelle. La compréhension, l'application, la mise en pratique de la parole ne peuvent pas se vivre exclusivement à l'échelle individuelle. On ne peut pas se passer de l'Église locale pour mettre en pratique, pour mettre à l'épreuve certains enseignements de la parole de Dieu. Je suis convaincu que c'est une des raisons pour lesquelles le Christ a aimé l'Église au point de donner sa vie pour elle. Individuellement et sans l'Église, je ne peux pas soumettre à l'épreuve de la vie quotidienne ma foi, mon amour pour le Christ, mon amour pour son Église locale, même imparfaite. Et là, je donne la parole à Anne-Lise qui va aussi partager quelque chose.
Moi, je pars toujours d'un texte biblique pour témoigner, donc voilà. Mais je vais vous poser une question. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je me sens de temps en temps comme un bateau soumis à des vents contraires et qui ne sait pas très bien comment il va aller et où il va aller. Et ce n'est pas très agréable. On tourne en rond, on se demande, il n'y a rien qui avance. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Voilà. C'est un texte qui m'a toujours aidée pour ça. Et je l'ai spécialement vécu quand j'étais il y a très longtemps à Galmi, encore jeune, et où avec mes autres collègues, on avait chacun des idées très arrêtées et très enthousiastes, mais pas dans la même direction pour faire quelque chose avec notre hôpital. Mais on allait dans la même église. On était quand même obligés de s'asseoir les uns à côté des autres. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à une stature de chrétien adulte? C'est bien ce qu'on voudrait, c'est même un de nos rêves. Enfin, moi, je rêve d'être un chrétien adulte qui ne boit pas que du lait, mais qui mange de la viande. Et... Mais comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, Éphésiens 4 nous dit très clairement qu'on y arrive dans l'Église. C'est limpide. Dieu a donné à l'Église des dons pour la croissance de chacun vers Christ qui est la tête et par lui. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul à essayer de se mettre d'accord pour avancer. Dieu nous donne ce dont on a besoin pour avancer ensemble. Et puis un verset que vous connaissez bien, mais que j'aime beaucoup. Mais c'est en disant la vérité avec amour que nous croîtrons dans un corps uni jusqu'à la tête qui est le Christ. Je ne sais pas si vous avez essayé souvent de dire la vérité avec amour, ce n'est pas très facile. Donc on a besoin de cette aide que Christ donne dans l'Église. Voilà. Et c'est par lui qu'on y arrive et c'est ça qui change de ce qui se passe dans des communautés sans Christ, en fait. Voilà. Alors, je vais, comme Jean-Marc l'a déjà dit, mais je ne vais pas vous faire croire que l'Église est idéale et puis que ça marche tout seul. Dans ce même chapitre de Éphésiens 4, au verset 2, il y a un conseil, entre guillemets, tout simple. Soyez simples, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour.
Merci, Anne-Lise, pour ce témoignage tiré d'Éphésiens 4. Je reviens à Éphésiens 5, le texte de départ. Il existe une tentation, peut-être plus pour ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, de vouloir présenter à ceux qui nous entourent une Église presque parfaite. Pour cela, on peut s'engager au point de vouloir se sacrifier pour l'Église. Mais le Christ s'est sacrifié pour l'Église et son sacrifice est pleinement suffisant. Nous n'avons plus à nous sacrifier pour l'Église. Acte 2, 47 nous précise d'ailleurs à propos de l'Église naissante: le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Là encore, notre responsabilité n'est pas d'ajouter des gens à l'Église. Ça me fait un peu penser à la vision d'église qu'on avait plus 300 2015. Qui ajoute à l'église? C'est le Christ, c'est le Seigneur. Notre responsabilité est de vivre en communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs et d'être témoins de la bonne nouvelle que nous avons reçue par grâce. Je voudrais conclure par deux versets de l'Épître aux Hébreux. Hébreux 10, 24 et 25, qui nous exhorte « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle afin que, lors de ce jour qui approche, dans un temps eschatologique, elle soit parfaite. Et ici, le texte dit « Faites cela, donc incitons-nous à l'amour, à de belles œuvres, encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. » Donc ce temps de la fin où l'Église atteindra cette perfection. Pouvons-nous nous payer le luxe d'aimer Dieu sans aimer l'Église? L'Église réunie, comme aussi l'Église dispersée, qui témoigne de l'amour du Christ dans le monde, l'amour du Christ pour le monde et les individus qui la constituent. Christ a aimé l'Église. Aimons-la à sa suite et honorons ainsi le Christ et l'Église. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous as aimés infiniment. Merci pour l'Église qui est si précieuse à tes yeux. Merci parce que tu as accepté de donner ta vie pour que cette Église puisse cheminer vers cette perfection. Merci Seigneur de pouvoir vivre en communion avec nos frères et sœurs. Merci de pouvoir s'encourager mutuellement et avancer ensemble. Merci pour ta parole que tu nous as donnée, cette parole qui nous lave, qui nous purifie et qui nous permet de ressembler de plus en plus, de te ressembler de plus en plus. Merci pour ton œuvre extraordinaire. Amen.